Adesso Esempri présente le festival Hybride, un théâtre ouvert aux rencontres du 27 mars au 2 avril 2010 à Montpellier. Chaque jour sur Divergence FM de 11h30 à midi, retrouvez des interviews des artistes et du public, des prises de son des spectacles, à écouter sur le 93.9 ou sur le www.divergence-fm.org. Le festival Hybride à la croisée des arts, un bon plan Divergence FM.
Et comme chaque jour durant cette semaine, de 11h30 à midi, nous revenons sur les spectacles du festival Hybride. Pour commencer, nous parlerons de la performance AJR, mise en place par le collectif NUS, qui se joue jusqu'au 2 avril au Théâtre de Gramont.
Oui, merci Yannick, bonjour à toi.
Bonjour à toi, c'est Julia. Il faut savoir donc que ce collectif existe maintenant depuis 5 ans. Il est composé de Anne Joignon, que nous avons eu le plaisir d'interviewer hier soir, de Vivien Sabot et Clément Bardet. Depuis leur début, ils ont pour objectif de soutenir, créer, mais aussi diffuser des projets autour des arts numériques. Ils mettent donc en exergue l'intérêt, mais aussi les limites de cette technologie.
Hier, ils présentaient AJR, un autre jour sans rembobiner. Cette pièce à jouer convie le spectateur à évoluer dans un appartement où objets familiers et situations quotidiennes aussi du connu à l'étrange. Noir, lumière, ailleurs proche, un appartement, un réveil sonne. L'environnement semble solliciter votre action. Vous êtes prêts ? À vous de jouer.
Un autre jour sans rembobiner, c'est un dispositif théâtral sans comédien, donc ça met vraiment le spectateur au cœur du dispositif spectaculaire. Ça vient d'où cette démarche ?
Moi je viens du théâtre, alors effectivement là on n'a plus de comédien pour de vrai, mais finalement ce qui nous intéresse c'est de donner un spectacle à un public, la manière que ce soit musical, vidéo, comédien, pas comédien. C'est pas tant la question. Ce qui nous plaisait là par contre là-dedans, c'était la notion d'interaction et de reconcerner le public et de lui donner vraiment qu'il soit le maître de l'histoire. On avait envie voilà de donner au public des cartes à jouer. La manière la plus intéressante, c'était l'interaction des capteurs et donc on s'est passé du comédien.
Et donc le spectateur devient le comédien, il évolue dans tout le dispositif avec des problématiques notamment sociales. Quelqu'un qui doit appeler les services sociaux parce qu'il peut-être va se faire expulser, etc. On est quand même dans des problématiques de société, on entre à l'intérieur de l'univers de quelqu'un, de salon de quelqu'un. Comment ça se passe ça aussi pour le spectateur qui arrive dans un univers inconnu, familier ?
C'est justement de voir en fonction de sa réaction à partir de ça. Est-ce qu'il va s'approprier cet espace, c'est-à-dire est-ce qu'il va vraiment fouiller, déclencher des choses, aller librement vers la radio, la hi-fi, etc. Ou est-ce que c'est quelqu'un qui va plutôt être en retrait ? Et en fonction de sa manière d'être à l'intérieur de l'appartement, nous, on va lui attribuer une histoire particulière. Et une suite qu'on n'aura pas aujourd'hui, mais une suite d'histoires aussi qui sera différente selon est-ce que c'est une personne qui est plutôt active ou à l'inverse qui a du mal à agir sur les objets. Donc effectivement, on aborde le problème de tu rentres dans un espace qui est-ce que c'est le tien ou est-ce que c'est pas le tien. N'empêche que tu rentres dans cet espace et on te menace d'entrée de jeu de devoir quitter les lieux en fait et menacé d'expulsion rapidement. Donc est-ce que tu prends en main cette histoire et à ce moment-là ça devient rapidement ton appartement puisque tu es en train de te mobiliser pour le défendre ou est-ce que tu n'en pas compte et à ce moment-là, dans la suite de l'histoire, on envisage que tu sois le potentiel expulseur en fait.
À l'intérieur de ce dispositif-là, qu'est-ce que tu peux voir au niveau des gens ? Est-ce que tu peux cerner des personnalités face à des actions qu'ils mènent dans un environnement familier quotidien ?
En fait, donc il y a des histoires qui sont écrites pour ces différentes personnes dont tu parles là, les différentes sensibilités, ces différents parcours potentiels compris par ces personnes. Ça, c'est déjà contenu à l'intérieur de l'écriture.
D'accord. Ce que ça peut l'actif, l'inactif.
Voilà. Par exemple. Mais ce que ça t'apprend sur toi-même, éventuellement, moi je fais pas un sondage à la fin, hein. J'ai un contrôle vidéo de ce qui se passe, mais je suis pas en train de faire une étude comportementale. Par contre, ce que je pense que ça peut apporter à la personne qui est en train de pratiquer ça, c'est de se dire, ah bah tiens, cette action-là, d'habitude je la fais complètement mécaniquement avec un réflexe. Et que là, elle prend un autre sens, puisque les gens sont plutôt en retrait, et ils vont réaliser finalement les actions qu'ils sont en train de faire, et j'espère qu'ils vont avoir davantage conscience de l'action et de leur pouvoir d'action sur ces choses-là.
En quoi c'est important de prendre conscience de son pouvoir d'action sur son quotidien, sur son réel.
Je pense qu'en fait, il y a tellement de choses dans la vie de tous les jours, des mécaniques qui s'instaurent rapidement et on est conditionné. Et en quoi ça peut apporter? Moi, ça, ouais, je trouve que c'est intéressant de prendre une distance par rapport à ça. C'est, je dis pas ça apporte quelque chose, je pose la question de, tiens, est-ce que ça peut apporter quelque chose? En soi, j'ai pas la réponse, mais il me semble que dans là, les retours que j'ai eus, les gens vivent vraiment ce quotidien d'une autre manière. Donc je pense qu'à nouveau, quand ils vont rentrer chez eux dans leur quotidien, ils auront peut-être une autre lecture de ces choses-là.
Justement, voilà, à la fin d'une première journée, là, qu'est-ce que tu trouves la réponse majoritaire? Ils sont plutôt à l'aise, plutôt mal à l'aise, parce que c'est quand même c'est pas chaleureux, quoi. Tu rentres, t'as une lettre où tu es presque renvoyé, il y a un message pas agréable, tu risques de te faire expulser. Quelle est la vie majoritaire
des spectateurs?
Alors, à nouveau, il y a deux questions. T'as pas forcément l'habitude de rentrer dans ce genre de dispositif. Donc là, il y a beaucoup de gens qui étaient effectivement un petit peu perdus. Par contre, au niveau de l'interaction aussi, on a beaucoup l'habitude aujourd'hui d'interagir avec des choses genre l'ordinateur, des choses qui interagissent assez rapidement. Là, on est rentré sur un protocole d'écriture où l'interaction, elle met beaucoup plus de temps à se mettre en place. Et ça, c'est aussi ce qui nous intéressait, c'était de voir est-ce qu'il était possible de dérouler quelque chose derrière l'action de quelqu'un. Ça pose plein de questions, effectivement. Il y a vraiment des comportements très différents. Il y a des gens qui sont plutôt dans le ludique et qui essayent d'obtenir une réaction immédiate à leur action. Et puis, il y a des gens qui se laissent porter par l'histoire et prennent le temps de dérouler les choses. Et aussi, il y a aussi des gens qui ne touchent absolument à rien. Malheureusement pour eux, c'est interactif. Si tu touches à rien, il se passe pas grand-chose. Là, on en est aussi à un moment d'écriture de la programmation qui fait qu'on n'a pas pu tenir absolument compte de toutes ces différentes personnalités. Donc la personne qui ne fait rien, aujourd'hui, elle n'est pas vraiment écrite, alors que j'aimerais quand même lui laisser la place à une histoire même plus... moins dans l'injonction et dans l'émission que je lui propose, mais c'est un parcours qu'il faut absolument qu'on arrive à prendre en compte. Moi, c'est ça aussi qui m'intéressait, c'était dans le quotidien de voir... combien de fois par jour, en fait, on te demandait de faire des choses et on te menaçait même si tu ne faisais pas ces choses-là. Que ce soit par les administrations ou que ce soit par la publicité, t'es toujours soumis à une pression extérieure qui te dit, tiens, il faut faire ça ou il faut pas faire ça. Et en plus, là-dedans, ce qui se complique, c'est qu'on te donne une double injonction. C'est-à-dire qu'on te dit une première fois, ça c'est bien, et puis 2 minutes après, on te dit, finalement, c'est pas ça qu'il fallait faire. Donc moi, c'était ça qui m'intéressait d'aborder, c'était de savoir, bon, comment tu te repères, en fait, à l'intérieur de ça et quel choix tu fais, à quel moment tu te positionnes.
Mais là, par rapport à ce que tu viens de dire, justement, je trouve que ça rejoint bien le festival hybride en lui-même, c'est-à-dire un petit peu la question, est-ce que tu penses qu'il est encore possible d'avoir une liberté individuelle dans un monde si bureaucratique et si je dirais pas autoritaire, mais tu vois, c'est tout le temps sous pression, il faut faire ci, ça, ça, et comme tu le disais, 5 minutes après, on te dit l'inverse.
Alors, moi, les ordinateurs, je fréquente ça depuis pas très longtemps, en fait. Donc, j'avais déjà cette vision de la vie où, finalement... T'es conditionné finalement, t'as besoin de manger, t'as besoin de faire un certain nombre, t'as besoin de te protéger du froid, etc. Donc t'es forcément soumis à des injonctions vitales. Après, il y en a d'autres qui se combinent là-dessus, le travail, pas le travail, les services sociaux, etc. Donc pour moi, la vie en général, c'est que un tas d'emmerdements. C'est aussi AJR, c'est l'apport journalier recommandé en emmerdement. Et donc il y avait cet aspect-là sur est-ce qu'on est libre. Bon, alors donc pour moi, donc déjà dans la vie de tous les jours, la liberté, elle est toute relative. Aussi, je parle aussi du mythe de Sisyphe parce que c'était aussi quelque chose qu'on avait envie de faire sentir. Je sais pas si c'est le cas, mais le fait que tu doives agir et qu'en fait ton action ne te ramène finalement qu'à son début, en fait. C'est une boucle, un cycle. Donc tu peux pas vraiment agir sur les choses. Ça, c'était quelque chose qui m'intéressait. On a eu des discussions beaucoup avec d'autres personnes, etc., sur qu'est-ce que c'était l'interaction et est-ce que de formuler l'action comme quelque chose de finalement vain, est-ce que c'était pas contradictoire avec l'interaction elle-même? C'est quelque chose où on est encore, on n'a pas la réponse encore, tout à fait. On a fait des parties prises sur cette session-là. Il y a peut-être des choses qui vont évoluer. Encore autre chose par rapport à l'interaction et au bureaucratique. Je me suis rendu compte, moi, depuis pas longtemps, qu'est-ce que c'était de parler à un ordinateur. Et vu le protocole que c'est assez drôle, en fait, parce que donc tu fais un parcours interactif où tu te dis, tiens, il faut prendre absolument en compte les différentes personnes, celui qui va être lent, celui qui va être rapide. Et puis finalement, quand tu te retrouves à rentrer ça dans une machine, ça devient tout le temps un parcours idéal, même le parcours qui n'est pas idéal devient le parcours idéal. Donc tu es toujours en train d'anticiper des choses, de prévoir des choses et de mettre des cases.
Et du coup, comment on adapte l'humain à la technologie? Tu vois, là vient peut-être aussi ce questionnement-là, non ?
Ouais, carrément. Ouais, si, ça se la pose, la question. Comment, en fait, plus tu vas multiplier ta programmation, plus tu vas écrire des choses et plus tu auras un potentiel de prendre en compte le maximum de personnes. Ouais. Mais dans l'absolu, c'est toujours impossible. Il y en aura toujours un qui fera ce que tu n'as pas prévu.
Et tant mieux, j'ai envie de dire.
Oui, et tant mieux. En plus, on a la chance de pouvoir avoir un retour vidéo des personnes suivantes, donc on peut un petit peu tâter des différents parcours et de sentir les différentes personnalités, les différentes manières d'envisager cet espace et ce quotidien.
Moi, j'aurais juste une dernière question. Justement, entre technologie et artistique, c'est la première fois que je vois un spectacle, on peut appeler ça comme ça, un spectacle mêlant comme ça, sans aucun acteur, où justement le spectateur est acteur. Et est-ce que tu penses pas qu'il y ait le fait que ce soit tout lié à des machines et à l'ordinateur, ça limite un petit peu le côté artistique ? Tu rencontres pas des problèmes pendant la création, pendant le...
Je vais pas être contente là. Surtout que je sors d'une session de travail avec des artistes et des techniciens à la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon, donc c'est un centre dédié aux arts numériques. Et moi je me suis rendu compte que l'artiste sans le technicien finalement dans les arts numériques, ça sert à rien. Donc, et que le technicien finalement, il a une telle connaissance de cette machine qu'il a une finesse et une manière de l'appréhender que quand t'es pas dedans, t'auras pas ce travail-là. Et au contraire, la machine, je veux dire, n'importe quel spectacle, un comédien qui est sur scène, c'est une machine qui présente ses limites aussi. On envoie des lumières, on envoie du son, c'est finalement le système est pas très loin. Et à nouveau, j'ai envie de dire que l'écriture de cet espace a été faite en amont par des corps, des comédiens, entre guillemets, qui évoluaient dans cet espace. Donc on a bien tenu compte de l'humain à un moment, quoi. On a fait rentrer les humains là-dedans, on a vu comment potentiellement ils pouvaient se déplacer, et après comment on peut traduire ça par la programmation. Mais ça part de l'humain. Voilà, la machine, elle ne part que pour répondre à des injonctions humaines et elle est programmée par un homme et il y a des fois elle fait ce qu'elle veut, mais le but c'est quand même d'avoir la main mise sur elle, quoi. Voilà. Alors après il s'avère qu'on a des difficultés avec des logiciels, etc. Mais ça, c'est pas très intéressant.
AJR, un projet en cours et qu'on peut-être on reverra sous une autre forme, ou en tout cas sous une forme un peu plus prolongée. Tu me disais que tu avais envie de créer d'autres espaces liés à l'appartement, à la cellule un peu familière.
Ouais, donc on s'est aussi bien rendu compte avec cette résidence, donc qui est la seconde, parce qu'on était à Kawenga en septembre, que c'est un projet de longue haleine, effectivement, donc il faut énormément anticiper les choses. C'est un petit peu comme si c'était un spectacle qui avait dû tourner déjà 100 fois, et il a fallu prévoir toutes les impros possibles et tous les parcours possibles du spectacle. Donc tout ça, il faut que ce soit en amont. Donc avec les 15 derniers jours qu'on a eu, ça a été un peu court. Et donc on sait qu'on aura une prochaine résidence, mais a priori en Lozère, où on retravaillera cette partie-là. Et par contre, les deux espaces qui suivront, donc il manque encore l'espace bureau et le second appartement, ils seront abordés en fin d'année sans doute, et en 2011 sans doute au fait d'hiver à Crévoux, donc dans une autre région PACA. Voilà, pour l'instant on en est là.
À suivre. Voilà. Merci Anne Joignon.
Je vous rappelle juste que vous pouvez retrouver le collectif NUS avec la pièce AJR tous les soirs, c'est-à-dire ce soir et demain soir, au théâtre de Gramont. Voilà.
Adesso Esempré présente le festival Hybride, un théâtre ouvert aux rencontres du 27 mars au 2 avril 2010 à Montpellier. Chaque jour sur Divergence FM de 11h30 à midi, retrouvez des interviews des artistes et du public, des prises de son des spectacles, à écouter sur le 93.9 ou sur le www.divergence-fm.org. Le festival Hybride à la croisée des arts, un bon plan Divergence FM.
Hier, nous avons pu assister au spectacle Artefacto au théâtre Jean Villard. C'est une pièce contemporaine, bien contemporaine. On commence à l'extérieur, deux comédiens en silence déposent au sol cinq lettres de glace et forment le mot « words ». Et toujours dans un silence à la fois perturbant et solennel, il est temps de rentrer dans le théâtre. Le spectateur est assis sur scène, au plus proche de la pièce, plongé dans la pénombre et bercé par des petits gazouillis d'oiseaux. La pièce est à la fois La pièce est à la fois jouée par une femme et par un homme. La femme s'occupe de remplir des pots de fleurs d'objets divers. Elle les expose à l'homme qui filme son action. Les images sont transmises sur les murs et ainsi se créent des forêts d'objets autour de la scène, poissons, allumettes, mains de plâtre, etc. Une musique les accompagne et c'est parti pour 45 minutes de spectacle. Donc Sébastien, qu'est-ce que tu en as pensé ?
Ben, moi, je n'ai vraiment pas aimé, en fait. Et j'ai même du mal à expliquer pourquoi. Je me suis pourtant posé la question. Je me suis dit, pourquoi as-tu trouvé ça médiocre, faible, insuffisant et quelconque ? Puéril, superficiel, infantile, mièvre, naïf et simpliste. Maniéré, fade, pathétique et inutile. Alors évidemment, ce n'est que mon avis, strictement personnel et subjectif. Mais pour moi, Artefacto est un condensé de tout ce qui est méprisable dans l'art contemporain. Cette espèce de prise au sérieux, de snobisme autour de préoccupations qui s'apparentent plus à de la masturbation intellectuelle qu'à un réel questionnement sur le fond des choses. J'ai trouvé ce spectacle très creux, en fait, très insipide et finalement très vide. Alors oui, il y a de beaux effets, de belles images, mais finalement c'est tout. En fait, pour résumer cette représentation, je dirais que j'ai trouvé certaines choses assez belles, mais l'ensemble est loin d'être bien. C'était beau, mais finalement pas terrible.
Eh bien, merci pour cet avis. Nous allons écouter tout de suite une interview d'Alex Serrano, le metteur en scène, qui sera accompagné de Marty, son collègue, et en espérant qu'il ait entendu ton message. Voilà.
Ou pas.
Ou pas. Est-ce que, en quelques mots, vous pourriez nous présenter la pièce ?
Oui, Artefacto, c'est une pièce de théâtre, voilà, une pièce de théâtre très visuelle. Que nous avec la conception de la choc,
de la lutte,
de la nature et de la culture, de la création humaine.
Donc sur scène, il y a deux acteurs, deux comédiens qui agissent donc avec une caméra. Il y a des projections vidéo et ils agissent avec des pots en fait. Que représentent ces pots de fleurs ?
Les pots, c'est bon, un peu, comme des plantes qu'on plante et après ils disparaissent. Donc c'est un peu le format choisi pour aussi créer des forêts de petits objets qui défilent et qui après on manipule sur scène. On joue avec un peu le concept du pot, de la plantation, de la forêt, de la disparition.
C'est comme un paysage après la disparition de l'homme. Après la bataille de l'homme et la nature, et quand l'homme il reste, bueno, il n'y a pas d'homme, alors la nature crée son forêt, ou comme ça, son bois.
On voit la femme qui se met dans la bassine. Quel est le lien avec la lutte ?
En fait, c'est comme la dernière image de la femme qui danse. En fait, c'est comme un lard qui, c'est pas pour nous, c'est pas un humain, c'est comme un lard qui crée, qui pousse et après c'est comme un conversion à comme un poupée, parce que tous les mouvements sont comme un poupée. C'est pas vraiment pour nos enfants.
Pourquoi avoir choisi de faire venir s'asseoir le public sur scène auprès des comédiens ?
Ça, c'est un peu une stratégie pour le mettre plus à l'entourage dedans de cette forêt. C'est un peu le fait qu'on recherche, c'est de le mettre juste au milieu et on essaye d'arriver au bout avec ça. Que les projections l'entourent complètement.
On est plus proche de la pièce.
Ouais. En même temps, à côté de la table de manipulation, donc... De regarder cette forêt qui est autour et en regardant les manipulations en même temps.
Pourquoi commencer la pièce en dehors de la scène ?
Parce que c'est comme un transit de l'audience et c'est aussi comme une introduction de la pièce, ça s'appelle comme ça. C'est comme une introduction qui nous pose sur la place, sur la terre. les paroles, les lettres, words, paroles, comme ça. C'est comme un bienvenu pour nous. C'est comme un olé. Si vous allez maintenant à l'extérieur, la lettre sont disparues totalement. La pièce commence avec la lettre totalement, que c'est possible de faire la description, mais après le spectacle, il n'y a pas rien.
Pourquoi les personnages ne s'adressent pas à la parole ?
Oui, en fait, tout notre spectacle, il n'y a pas de parole. Nous n'aimons pas de jouer avec la parole. Nous aimons de jouer avec le très spectacle très visuel. Parce que je pense que c'est plus facile, plus potente,
puissant
de que le message aller avec l'image ou avec la composition, la poésie de la composition, pas avec la parole. Rare, les paroles sont disparues.
Quand vous est venue l'idée de cette pièce ?
Cette pièce, un peu, elle a évolué de deux de premières pièces avec Alex. Et un peu l'idée centrale, ça a été sur l'effet vidéo, parce qu'il y a l'autre pièce, Contra Natura, qui est beaucoup plus performatique, que vous pouvez voir le vendredi, dans cette même salle. Donc, on a pris l'effet de forêt, de pousser, pour le mettre vraiment au bout, et faire cette pièce plus comme une sieste visuelle, plus.
L'an passé, la février.
Oui, la première.
Scène contemporaine à Madrid.
À Madrid, scène contemporaine.
Nous sommes
première.
Espagnols et nous aimons beaucoup la sieste. Et c'est pour ça que nous appelons ces spectacles comme un scénique siesta sur la
scénique.
Siesta scénique.
Oui. Merci, Alexandre Serrano et Marty.
Muchas gracias.
C'était un reportage de Sébastien, Thomas et Lucille. Rendez-vous demain 11h30 sur Divergence FM pour de nouveaux reportages hybrides.
Merci Lucille. D'ici une petite dizaine de secondes, bien ce sont les informations que l'on retrouve avec la rédaction de Radio France Internationale. Après quoi, ce sera Tous au poste et puis on écoutera Radio Homicide juste avant Tous au poste puisque le temps nous est compté désormais. RFI tout de suite.
Radio France Internationale.